Donc je vais commencer par vous remercier Charlotte, Myriam et Thomas, parce que je ne pensais pas que j'allais à nouveau être sollicitée pour présenter ce travail qui est loin derrière moi et qui m'a donné l'occasion effectivement de reprendre un certain nombre de choses. Voilà. D'autant plus que je crois que je n'ai jamais présenté en France, sauf sur les femmes, juste à une journée qu'on avait organisée en 2008 sur les femmes et le VIH. Mais la globalité de mon travail, je crois que j'ai... Bon, voilà. Donc, je vais vous présenter le résultat de trois enquêtes que j'ai effectuées entre la première en 1990 et la dernière s'est terminée en 2000, dans trois contextes scientifiques et médicaux différents et dans trois contextes de recherche différents, puisqu'en 90, les personnes que j'ai interviewées avaient des perspectives de vie extrêmement limitées. En 96, c'était des personnes qui étaient dans une cohorte médicale qu'on appelle, je ne sais pas si on l'appelle toujours comme ça, asymptomatique à long terme, c'est-à-dire des personnes dans une situation exceptionnelle, entre guillemets, qui étaient contaminées depuis 8 ans avec 800 T4 et qui n'avaient ni traitement, ni aucun symptôme. Et ensuite, en 1998, je parle en français, donc je ne sais pas comment on dit. Hein. En 1998 et 2000, j'ai revu à trois reprises les mêmes personnes dans le cadre d'une cohorte qui s'appelle APROCO, qui était une cohorte dans laquelle on suivait régulièrement de façon biannuelle ou annuelle des personnes infectées par le VIH et qui recevaient pour la première fois des antirétroviraux. Voilà. Donc, tous ces trois enquêtes, je les ai mises bout à bout. Je me suis donné un défi en disant « est-ce que je peux en faire quelque chose ?» Et donc, j'ai essayé de voir ce que ça donnait que de vivre avec le VIH à ces trois moments différents et si je pouvais tirer un fil. Et le fil que j'ai tiré, et, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai tiré, c'est sorti de mes entretiens. Donc, je réalisais des entretiens enregistrés au magnétophone. J'ai eu 118 interviews en tout, 14 femmes malheureusement, mais bon, c'était les aléas des contextes de recherche, puisque dans la première recherche en 90, il n'y avait pas de femmes. Les médecins m'ont dit, mais non, il n'y en a pas. Voilà, bon, voilà. Et ensuite, j'ai eu des femmes un peu au hasard des recherches et du bon vouloir des médecins avec lesquels je travaillais. Donc 118 personnes interviewées entre 1 heure et 2 heures, enregistrées au magnétophone et entretien analysé ensuite. Il n'y a pas de personnes d'origine subsaharienne, parce que voilà, c'est comme ça. Donc c'est aussi un point noir de ce travail. Qu'est-ce que je peux dire, si je puis dire, excusez-moi. Une absence dans ce travail, mais enfin ça tient aussi aux médecins et à la façon dont ils ont entendu mes questions. Donc l'analyse de ces trois enquêtes s'est faite autour d'une notion qui revenait dans les trois, qui était vivre normalement ou avoir une vie normale. Déjà en 1990, cette question de la normalité émergeait dans les entretiens et je l'ai retrouvée à plusieurs reprises jusqu'en 2000. Donc, j'ai essayé, autour de cette notion de vie normale, d'analyser mon matériel et j'ai construit trois types, une typologie, trois façons de vivre avec le VIH qu'on pourrait encore peut-être retrouver aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elles soient obsolètes, même si elles reposent sur des données un peu anciennes. Le premier type s'appelle continuer... La continuité sous contrainte. Le deuxième type s'appelle le retournement. Et le troisième type s'appelle enfermement. J'aurais dû vous préciser au préalable que les propos sur la sexualité, sur la vie sexuelle, affective et reproductive, ont émergé spontanément dans les entretiens. C'était des entretiens non directifs. Donc... Avec les collègues avec qui j'ai pu travailler au cours de ces enquêtes, on avait décidé de ne pas poser de questions sur la sexualité, mais simplement, si c'était abordé, d'aller essayer d'approfondir un petit peu ce qui était dit. Donc ça a été le cas, et dès les entretiens de 1990, les propos relativement longs ont été développés, en particulier par les hommes contaminés par relations homosexuelles, et pratiquement pas par les hommes contaminés par produits sanguins et hémophiles, parce que c'était les deux grosses populations de cette première enquête. Donc des propos spontanés. Ensuite, on a fait éclater, parce que la notion de santé sexuelle n'avait pas, enfin bon, à l'époque, on n'en parlait pas. Donc on a fait éclater cette notion et on s'est intéressé à la vie sexuelle, affective et reproductive, en considérant que cette vie sexuelle, et d'ailleurs dans les entretiens c'est très net, n'est jamais dissociée des autres aspects de la vie, que ce soit des rapports avec le monde du travail ou avec le monde médical. Il y a toujours des liens qui sont créés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et en troisième petit préalable, avant que je vous présente plus en détail les résultats, au cours de ces 10 années, entre 1990 et 2000, le sens, la signification qui a été donnée à la vie sexuelle, affective et reproductive a changé. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans la discussion, on reviendra sur les leçons ou les perspectives qu'on peut dégager de ce travail, mais comme vous le voyez, on est loin du TASP et de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, les trois types que j'ai construits sont des façons de rendre compte de l'expérience de la vie avec le VIH, de la façon dont on vit avec le VIH. Et ça a été construit autour des rapports au temps et à la durée, à la façon dont il y a eu ou pas d'éventuels réaménagements biographiques et à la façon dont les personnes ont construit l'espoir pour vivre avec le VIH. Donc c'est un ensemble d'aspects de la vie quotidienne qui a été pris en compte pour construire ces trois types. Alors le premier type, la continuité sous contrainte, regroupe pratiquement la moitié des personnes interviewées au cours de ces trois périodes, c'est-à-dire plus de 50 personnes. Il s'agit pour ces personnes de continuer à vivre le plus longtemps possible dans la continuité de la vie passée. Et la référence, c'est effectivement la vie passée. Hein, ça n'est pas une projection dans le futur, mais c'est vraiment comment on vivait et comment on fait pour continuer à vivre. Avec des aménagements, des arrangements, en particulier, je n'en parlerai pas, mais c'est quand même une thématique qui demeure aujourd'hui absolument centrale, qui est la thématique du secret, et à qui on dit ou à qui on ne dit pas, comment on partage ou pas le fait d'être infecté par le VIH et de vivre avec le virus. Alors là, ça demande des aménagements et des aspects assez compliqués, que ce soit au niveau de la vie professionnelle ou familiale. Mais pour ces personnes qui disent vouloir continuer à vivre le plus normalement possible, dès 1990, le problème de l'incontournable, qui est la contamination par relation sexuelle, empêche justement de continuer cette vie la plus normale possible. Donc, en particulier, je l'ai déjà dit, pour les hommes hémophiles que nous avons interviewés, la vie sexuelle est une espèce d'impensé et de difficulté à exister. Enfin, je veux dire, bon, je ne rentrerai pas dans plus de détails, mais très peu d'hommes hémophiles ont parlé de leur vie sexuelle et affective, à l'exception peut-être d'un homme qui nous a dit avoir eu un enfant en 1989 ou 1990, après avoir, sans contaminer sa femme, etc. Mais je veux dire, la vie sexuelle proprement dite, il y avait assez peu de propos. En revanche, les hommes bisexuels et homosexuels en ont relativement parlé, en particulier en employant la notion de rapport protégé. Ce n'était pas tant la notion de préservatif qui était avancée, parce que justement, à cette époque-là, en 1990, il y avait une relative méfiance à l'égard du préservatif, mais plutôt la notion de rapport protégé qui a disparu maintenant un peu. dans les campagnes, on parle un peu moins de rapports protégés qu'à cette époque, et qui voulait dire effectivement une multitude de choses qui pouvaient vouloir dire à la fois la masturbation, mais aussi le choix d'un partenaire stable, l'absence ou l'abstinence sexuelle. Enfin, ça recouvrait une diversité de pratiques dont on ne parle un petit peu moins, me semble-t-il, aujourd'hui, avec une méfiance par rapport aux préservatifs, en particulier chez les hommes homosexuels, qui avaient toujours peur, enfin, qui pensaient que le préservatif n'était pas sécur, etc. En particulier, le préservatif est présenté comme un impératif médical qui devient une espèce d'obligation morale. Il faut adopter le préservatif pour avoir des rapports sexuels sécurs. Et cette espèce d'obligation morale et de sens moral que prend le préservatif à cette époque-là, il y a 25 ans maintenant, fait l'objet d'une espèce de mise à distance et de méfiance, en particulier chez les hommes homosexuels. Mais en même temps, au cours de l'entretien, déclarer que l'on a et que l'on maintient une activité sexuelle, dans cette époque noire où les perspectives de vie étaient extrêmement limitées, signifie que l'on continue à vivre et que la vie continue. Alors, je ne sais pas ici en Belgique, mais en France, la sexualité, enfin la vie sexuelle des personnes séropositives a commencé à intéresser les chercheurs et les pouvoirs publics à partir du moment où il y a eu les antirétroviraux. À partir de 1996, l'Agence nationale de recherche sur le sida a organisé des journées sur la vie sexuelle des personnes séropositives, alors que jusque-là, ça n'intéressait pas beaucoup, ni même la vie des personnes infectées d'ailleurs. Donc, en 1990, se protéger lors des rapports sexuels est une obligation contraignante, voire une norme, mais avoir une vie sexuelle et affective est le signe que la vie continue. Quelques années plus tard, lors de l'enquête auprès des asymptomatiques à long terme, qui sont ces personnes dans une situation d'exceptionnalité par rapport à la médecine, et qui font partie d'un protocole de recherche pour essayer d'expliquer au mieux de comprendre pourquoi ils vivent depuis si longtemps sans être malades et sans être traités. Bon, à partir de 1996, on mesure la charge virale et là, on s'est aperçu que chez ces personnes qui avaient 804, il pouvait y avoir des charges virales au plafond et donc on a commencé à les traiter. Ça, c'est une autre histoire, mais quand je les ai interviewés, ça n'était pas le cas. En revanche, ce qui était fort pour ces personnes, c'était justement, au cours de l'entretien, d'essayer de montrer comment ils avaient vécu depuis la connaissance de l'infection, et non, la référence était depuis et non plus avant. Et pour eux, c'était une espèce d'exercice fort, parce qu'ils savaient qu'ils étaient denses. Il et elle, parce que là, il y avait des femmes. Savaient qu'ils étaient dans un protocole de recherche pour essayer de montrer, d'expliquer leur longue durée de vie. Et donc, l'entretien était un moment particulier de cet exercice médical pour eux et pour elles, d'essayer de montrer, à travers la description de leur vie quotidienne depuis la contamination, qu'ils ne comprenaient pas plus que les médecins, pourquoi leur vie avait duré si longtemps. Plusieurs personnes disaient qu'ils avaient eu des rapports non protégés, plusieurs personnes, les femmes ont fait état de plusieurs avortements, de désirs de grossesse, parce que quand j'ai commencé l'enquête, c'était le début des antirétroviraux, mais les personnes en question n'en avaient pas encore. Donc il y avait cette volonté de s'interroger et de retrouver des explications sur la vie depuis la connaissance de la contamination. Et dans ces entretiens, la vie sexuelle est largement abordée et c'est elle, en quelque sorte, qui vient signifier l'infection à VIH, étant donné qu'il n'y a pas de traitement, qu'il n'y a pas d'autres signes, que cette difficulté à poursuivre et à avoir une vie sexuelle. Parce que les résultats biologiques sont bons, enfin bon, je veux dire, il n'y a que cette contrainte au niveau de la vie sexuelle qui vient signifier l'empêchement de la vie. Et c'est donc au moment des rapports sexuels et de l'activité sexuelle que leur corps contaminé et contaminant vient rappeler l'existence du virus. Donc, je regarde l'heure. Non, ça va. Donc, en 1996, dans le cadre de cette enquête avec les personnes asymptomatiques à long terme, l'activité sexuelle est le moment qui rappelle la présence du virus et maintenir des rapports protégés dans la durée s'avère pour eux, et je crois qu'on n'en avait pas pris conscience suffisamment avant, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à maintenir dans la durée. Donc, voilà. Mais en même temps, c'est le début des antirétroviraux et d'autres perspectives s'ouvrent, en particulier autour de la médecine. Dans l'enquête sur APROCO, dans le cadre d'APROCO, pardon, entre 1998 et 2000, où j'ai pu interviewer en 1998, en 1999 et en 2000 les mêmes personnes qui prenaient pour la première fois un antirétroviral, la situation est fondamentalement différente parce que ces personnes sont complètement préoccupées par la prise du traitement. C'est-à-dire que, et à l'époque, c'était quelque chose d'assez délicat, douloureux et difficile. Il y avait entre 10 et 14 comprimés par jour à prendre à des moments très stricts. Et pour ces personnes, la vie sexuelle et affective était, au cours des entretiens, passée un petit peu à l'arrière-plan parce que leur préoccupation centrale, c'était d'arriver à ce que j'appelle, moi, l'intégration du traitement dans leur vie quotidienne et non pas l'observance, parce que je pense que c'est un processus que d'arriver à accepter un traitement et ce n'est pas simplement un comportement. L'observance renvoie en plus à un comportement et pour moi, la notion d'intégration renvoie davantage à l'idée d'un processus de routinisation pour arriver à ce que le traitement devienne une habitude dans la vie quotidienne et soit en quelque sorte banalisé. Donc dans ces entretiens, la vie sexuelle est relativement peu présente, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. L'expression rapport protégé a quasiment disparu. On n'en parle plus, mais on parle là cette fois-ci de préservatif qui va s'imposer dans les propos. Mais l'impératif médical dont je parlais à propos du préservatif en 1990, puisqu'il n'y avait pas de traitement, là, l'impératif médical s'est déplacé vers le traitement et le respect du traitement, et ça n'est plus le préservatif qui devient un impératif médical, même si ça devient une obligation. Il y a un déplacement de sens. Donc, avec la prise des traitements efficaces, la vie quotidienne est beaucoup plus tournée vers la médecine et vers les médecins et les contraintes à respecter pour suivre le traitement. Et donc, le préservatif est devenu une espèce de routine dans l'activité sexuelle et a perdu, en quelque sorte, son sens d'impératif moral. Et ça devient une difficulté parmi d'autres. Dans le deuxième type, qui s'appelle donc retournement et discontinuité, le temps pour ces personnes, c'est celui depuis la découverte du VIH. Parce que dans ce type discontinuité et retournement, il y a beaucoup de jeunes qui ont découvert, enfin beaucoup de personnes qui ont découvert jeunes leur infection à VIH. Et qui donc ont débuté leur vie affective, sexuelle et reproductive avec le virus. Et donc, pour ces personnes, c'était comment vivre en sachant qu'on est contaminé, comment développer une activité sexuelle, comment développer une vie affective. Et donc, la découverte du virus va les conduire à des questionnements sur leur vie, et sur l'organisation de leur vie, et sur avec des remises en cause. Et ces retournements vont être plus ou moins rapides en fonction de leur âge, en fonction des contraintes. Je pense par exemple à quelqu'un qui était ingénieur et qui a dit « Bon, bah, écoute, bon, maintenant je sais que j'ai le virus, j'ai plutôt envie de faire autre chose, je vais m'engager dans le milieu associatif. » Ou à des jeunes, des hémophiles en 90 qui disent « Bon, bah, ok, j'ai touché l'argent de l'indemnisation, je vais vivre, je vais voyager, etc. » Enfin, bon, mais il y a aussi des retournements professionnels, des retournements où des jeunes femmes qui ont été contaminées à la suite d'usage de drogue et qui étaient un petit peu paumées, un petit peu désinsérées, et qui tout d'un coup vont reprendre des projets de vie affective, de vie à deux, et des projets de vie professionnelle. Alors, pour ces personnes également, l'activité sexuelle est aussi une contrainte objective et incontournable, ce n'est pas la vie sexuelle qui va entraver leur projet de changement de vie ou de réorientation, etc. J'aurais dû dire aussi, mais excusez-moi, que l'infection à VIH n'a jamais été abordée comme cause d'une rupture dans des couples. Au cours de mes entretiens, les ruptures, quand elles ont eu lieu, il y en a eu plusieurs évidemment, ça n'était jamais l'infection à VIH qui était mise en avant par les personnes, mais d'autres raisons d'incompatibilité, enfin je ne sais pas, ou d'orientation, de projet de vie, mais pas... Alors, est-ce que c'est un déni? Moi, je ne suis pas psychologue, je suis sociologue, mais voilà, je vous le livre comme ça. Le troisième type, qui s'appelle l'enfermement, c'est un type dans lequel le temps est complètement brouillé, les personnes ont du mal à établir une chronologie au cours de l'entretien. J'ai moi-même du mal à savoir de quelle période ils parlent, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après l'infection. Ce sont des personnes qui vivent dans une situation d'isolement total, sans perspective, et des personnes qui se sont enfermées dans la maladie et qui, avec les traitements, vont progressivement acquérir un statut de malade. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils reçoivent des subsides de la médecine, mais le fait d'être traité va pour eux être un moyen de signifier aux autres que comme ils ont un traitement, ils sont malades. Je veux dire, c'est tout l'inverse de ce qu'on essaye de montrer avec le malade acteur, etc. Mais enfin bon, je veux dire, c'est important pour ces personnes que de pouvoir montrer qu'ils ont cette situation de malade. Donc le VIH n'est pas forcément à l'origine de leurs difficultés de vie, hein, c'est souvent un malheur supplémentaire dans une vie qui était déjà difficile, chaotique, solitaire, isolée. Et la contamination est parfois aussi le résultat de cette vie chaotique, difficile et solitaire. Donc vous voyez, c'est une situation qui tourne, qui se boucle. Donc c'est une vie vide et subie, dans laquelle les personnes sont victimes, se présentent comme des victimes, et... elles se sentent donc inutiles et elles ont souvent pas du tout de vie sexuelle et affective, enfin pas de vie affective du tout, une vie sexuelle plutôt misérable et une vie reproductive qui est inexistante. Voilà, là ce sont des personnes qui sont assez peu en couple. D'une façon générale, et quels que soient les trois types, le fait d'avoir, d'être en couple et d'avoir une vie affective relativement stable et équilibrée est un élément tout à fait positif et important dans l'organisation de la vie et dans la gestion de l'activité sexuelle et reproductive. Des perspectives d'enfants. Plusieurs femmes ont eu recours à l'avortement dans des périodes, en particulier la première moitié des années 1990. Plusieurs autres envisageaient d'avoir des enfants ou d'en adopter dans les enquêtes ultérieures. Voilà, peut-être m'arrêter là. Donc ces données, comme je le disais en préalable, sont anciennes. Mais je pense que en se creusant un peu les méninges, on peut essayer de les faire travailler, si je puis dire, de s'appuyer dessus pour les faire travailler et de voir dans des trajectoires individuelles si ça ne correspond pas à des moments particuliers d'une histoire avec le VIH. Hein ? C'est-à-dire le problème de la référence avant, après, le problème préservatif, rapport protégé, le problème des liens des liens avec la médecine et de la place que peut prendre la médecine dans ce dispositif qui est absolument central. Mais peut-être que c'est aussi je n'aime pas la notion de biais parce que moi de toute façon il n'y a que des biais, alors je ne peux pas, mais je veux dire un des défauts ou des limites, voilà. Une des limites de mon travail, c'est que pour avoir des personnes infectées, je suis passée par le corps médical. Mes relations avec le milieu associatif n'ont rien donné. Donc j'ai été obligée de passer par des services hospitaliers. Et puis ensuite, dans le cadre de la cohorte APROCO et dans le cadre de la cohorte ALT, c'était forcément des dispositifs médicaux. Mais ce que je voulais dire pour conclure, je crois que j'arrive à la fin, ouais. C'est justement d'essayer de reprendre. Je suis un peu paresseuse maintenant, donc je n'ai pas fait moi-même le travail. Mais en préparant mon intervention, je me suis dit il y a des éléments peut-être qui permettent de penser une trajectoire individuelle, un parcours individuel avec la façon dont on pense sa vie sexuelle depuis l'infection. Avec le temps, le rapport au préservatif et le rapport à la médecine.